Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer cette semaine, je vous propose une devinette. Quels sont les points communs entre un skateboard, une pale d'éolienne, certains revêtements de sol industriels, un avion ou même des bijoux fantasy ? Point commun numéro 1, ils sont en plastique composite. Comme leur nom l'indique, les matériaux composites sont constitués d'au moins deux matériaux de nature différente. Dans les cas des plastiques, il s'agira le plus souvent, mais pas exclusivement, de résine époxyde associée à des fibres de verre ou de carbone. Point commun numéro 2, les plastiques composites sont généralement plus performants que les plastiques non composites. Point commun numéro 3, ils ne sont pas recyclables, à la différence des autres plastiques. Point commun numéro 4, ils focalisent toute l'attention de notre invité du jour, qui a relevé un immense défi, transformer leur point commun numéro 3 en un point commun numéro 5, je vous ai perdu, je le sais, faire entrer les plastiques composites dans un circuit de recyclage plus vertueux. Avec nous dans le studio, Sylvain Cailliol, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Et
bienvenue dans Allume la science. Donc, vous êtes chercheur à l'ICGM, l'Institut Charles Guérard Montpellier, et vos travaux ont été publiés le 12 avril dernier dans la prestigieuse revue Science.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est des travaux qu'on a menés en collaboration avec professeur Katrin Bartha en Autriche et Vincent Placé en Franche-Comté. Voilà.
Pas trop d'erreurs dans mon lancement.
Non, mais vous m'avez perdu aussi les numéros.
Parfait, c'était le but.
Mais c'était effectivement exact, voilà.
À mes côtés pour mener cette interview, celle avec qui le plastique est toujours fantastique, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous retournons au CEMIPAI, le Centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse. Toujours en compagnie de Sébastien Lyonnais, accompagné cette semaine du virologue Aymeric Néré. En fin d'émission, notre invité de trois dernières minutes sera Jean-Louis Respeau, maître de conférence en droit privé à la faculté de droit et sciences politiques, directeur du master de droit privé économique et chercheur au LICEM. Il organise le colloque Journée du droit du marché le 7 juin de 8h30 à 17h30 à la faculté de droit et sciences politiques. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alors Sylvain Cailliol, on va commencer par une petite mise en contexte. Donc les plastiques et la question de leur recyclabilité, ça ne va pas être facile à dire ça. Et on le sait, un enjeu environnemental assez immense, 500 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Quelle part représentent les plastiques composites? Une grosse part, une petite part?
C'est une petite part, c'est à peu près 50 millions de tonnes. Voilà, donc c'est 10%. Tous les plastiques ne se recyclent pas, hein. Les composites non, mais d'autres plastiques qui ne sont pas composites aussi ne se recyclent pas, mais une grande partie peut se recycler. Voilà, donc c'est quand même un enjeu, effectivement.
Alors Lucie a parlé dans son lancement de résine époxyde, c'est un des composites les plus connus du grand public, qu'on appelle aussi les thermodurcissables en résine époxy, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement que ces résines, il y a quoi dedans?
Oui, alors, thermodurcissable parce qu'effectivement, une fois qu'on les fait, en fait, c'est plastique, en fait, hein, on n'arrive pas à les défaire. Ils sont résistants à la chaleur, ils ont des bonnes propriétés mécaniques, thermiques, donc c'est très intéressant. Et pour ça qu'on appelle ça les thermodurcissables, hein, ils durcissent à la chaleur et après ils ne bougent plus. Donc on ne peut pas les recycler comme d'autres plastiques simples où il suffit de chauffer pour les déformer. Et quand on leur rajoute des fibres, éventuellement verre, carbone, autres, ou fibres végétales, ben effectivement, on a des composites. Et donc, on améliore leurs propriétés, hein, leur tenue mécanique notamment. Et effectivement, on peut assez simplement utiliser des résines époxy. Alors, les résines époxy sont très utilisées pour faire des composites parce que ben, ça c'est très réactif, ça marche très très bien.
Mais il y a d'autres types de plastiques composites que ceux avec les résines époxy?
Oui, vous avez effectivement, alors je vais donner des noms, hein, des vinylesters par exemple, qui sont des composites avec d'autres fibres. Vous pouvez faire aussi des composites avec des résines phénoliques, hein, voilà, dans les tuyères de propulseurs, c'est des résines phénoliques avec des fibres de carbone par exemple. Voilà. Donc il y a d'autres plastique composite, on va dire, que les époxys. Mais les époxys sont effectivement très largement utilisés partout. Voilà.
Alors, on a cité quelques-uns de leurs usages en début d'émission, dans le lancement. Quelle est la raison de leur succès à ces plastiques? Vous avez évoqué quelques caractéristiques qu'on peut développer un petit peu?
Oui, alors, ben, quand, pour les faire, déjà, il faut avoir deux composants. Donc un réactif qui est époxy et un durcisseur. On va les mélanger, ça va durcir. Et si on met des fibres au milieu, on aura un composite. La recette est assez simple. Et donc, ça réagit à température ambiante. Ça peut réagir à température ambiante. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça assez simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez en acheter...
très facile d'usage pour le commun des mortels.
Exactement, dans des grandes surfaces de bricolage. Et vous pouvez mélanger les deux pâtes qui sont ces bicomposants. Et vous avez effectivement une résine époxy. Donc, ça marche très bien. On peut le faire à température ambiante. Donc, on fait des sols de parking. Parce qu'on ne peut pas chauffer tout un parking quand on le fabrique. Mais on fait un bâtiment. Donc, il faut la température ambiante. Et effectivement, quand on ajoute des fibres, on a des propriétés thermiques. Donc résistance à la chaleur et mécanique, de résistance, je dirais, aux contraintes mécaniques, très très élevées. Et donc c'est pour ça que ça devient des pièces d'avion, dans le milieu aérospatial, etc.
Vous venez peut-être de répondre à une question que je me pose depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a des sols de plastique qui brillent? On a l'impression qu'il y a plein de petits morceaux de brillants dedans.
Alors, il y a plusieurs explications. la brillance, elle peut venir de plusieurs facteurs. Le fait qu'effectivement le plastique soit dur, que ça dure, ça renvoie aussi la lumière. C'est la différence entre effectivement des peintures mates et des peintures brillantes aussi, c'est le nombre, la quantité de charge. On met aussi des choses pour faire briller éventuellement, selon les applications. Mais voilà, on pourra parler peinture décorative si vous voulez. Pourquoi des peintures mates et des peintures brillantes? Voilà,
c'est
notre sujet, mais c'est intéressant.
Alors là, on a parlé des avantages de ces matériaux, mais ils ont aussi, faut le dire, des inconvénients, et parmi lesquels le fait qu'ils ne soient pas recyclables. Pourquoi on ne peut pas les recycler, ces matériaux?
C'est l'inconvénient de l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui est très résistant, notamment thermiquement, et donc on peut le chauffer, et il ne se passera rien jusqu'au moment où ils vont évidemment se détruire complètement, mais c'est à des températures assez élevées. Et donc voilà, on les fabrique pour qu'ils soient résistants, donc du coup les recycler, c'est pas facile, on ne les recycle pas, et c'est ça la vraie difficulté de ces résines thermodurcissables.
Et parmi les inconvénients, il y en a un autre qu'on n'a pas encore cité, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de bisphénol A, c'est ça? C'est un perturbateur endocrinien, le bisphénol A?
Oui, oui, tout à fait. Ça concerne particulièrement les époxys. Pourquoi on utilise le bisphénol A ou BPA? C'est pas parce qu'on voudrait, enfin, c'est pas parce qu'il est dangereux, on s'amuse pas, mais si vous voulez, la structure de la molécule fait qu'on va apporter des propriétés justement de résistance mécanique et thermique élevées. Voilà. Normalement, il n'en reste plus dans la résine époxy, il ne faut pas s'affoler, il n'en reste plus. Et éventuellement, il pourrait éventuellement rester quelques traces, mais normalement, il n'en reste plus. Mais effectivement, ceux qui fabriquent les résines en amont peuvent être eux exposés. Donc c'est surtout embêtant pour ceux qui les fabriquent.
Mais vous, ça fait longtemps que vous travaillez, on avait déjà parlé d'alternatives au bisphénol A pour fabriquer des plastiques. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées déjà?
Oui, alors, le BPA est utilisé dans d'autres plastiques également. Il y a eu des alternatives déjà, notamment des corps de bouteilles et des choses comme ça. Dans les époxys, il y a aussi quelques alternatives industrielles qui sont... ce sont des solutions quand même parfaites, en réalité. Nous, on avait travaillé, vous l'avez dit, sur des substitutions. D'ailleurs, on a travaillé avec des industriels, on a permis de remplacer le BPA dans des produits industriels. Donc ça, on y arrive, notamment à partir de la biomasse. Mais on n'était pas arrivé, en tout cas, tout ce qu'on avait fait, c'était pour remplacer le BPA, pour faire des composés éventuellement à partir de ressources renouvelables. Mais on avait des résines qui n'étaient pas recyclables non plus.
Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans votre étude, puisque votre premier objectif était de réaliser un thermodurcissable en résine époxy entièrement basé sur des ressources renouvelables. Donc, quand on lit votre publication, on lit DGF, MBCA. Évidemment, j'y ai rien compris. Donc, qu'est-ce que c'est ces ressources renouvelables?
Oui, effectivement, nous excuser, nous les scientifiques, on met des acronymes partout, comme ça on a l'air de comprendre plein de choses que d'autres ne comprennent pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de place en plus dans les publications. Mais donc en fait voilà, on a utilisé, si vous voulez, pour faire ces résines, des ressources renouvelables, donc de la biomasse, et on est parti essentiellement de la biomasse qui est contenue dans les végétaux supérieurs, donc des arbres et des plantes également, cellulose et lignine. Voilà, la lignine, c'est ce qui va tenir effectivement la cellulose aussi dans les arbres, pour être simple. Et si vous voulez, notamment cette lignine, elle a une structure qui ressemble, je dirais en première approche, au BPA, au bisphénol A, parce qu'il y a des cycles assez rigides dans la molécule qui peuvent apporter des propriétés thermiques élevées, des résistances élevées. C'est pour ça qu'on est parti de là. Et puis, ben, si vous voulez, cette biomasse, il n'y a pas de compétition alimentaire à partir de la cellulose ou de la lignine. Et puis, ben, on ne met rarement pas beaucoup d'intrants, enfin, on fait beaucoup d'intrants et d'énergie pour faire pousser tout ça. Donc voilà, donc on a fait des choix, si vous voulez, pour avoir une utilisation la plus neutre et la moins impactante de la biomasse.
Alors ça, c'est pour la fabrication. Pour la phase de recyclage, vous dites que vous utilisez du méthanol. Pourquoi vous avez choisi cet alcool-là plutôt qu'un autre ?
Alors, j'ai envie de dire, on ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. D'accord ? Parce que, en fait, on avait mis des liaisons dans cette résine. Une des particularités, c'est qu'on a mis une liaison qui peut être fragile, sensible à un alcool. Le méthanol est un alcool. Et on a essayé plein d'alcools pour casser cette liaison-là, et rien n'a marché, à part le méthanol. Donc c'est pour ça que c'est lui qui nous a choisi. Le méthanol a permis de casser cette liaison fragile, et donc de permettre la cassure, entre guillemets, des liaisons, donc de la résine, donc la dépolymérisation de la résine.
Et c'est un procédé qui pourrait être mis en œuvre à grande échelle assez facilement ?
Oui, parce qu'en fait, ça, il faut utiliser du solvant et, on va dire, entre guillemets, tremper la pièce dans du solvant, dans le méthanol, chauffer un petit peu pour activer cette réaction de cassure, enfin de clivage de la liaison. Donc oui, on peut effectivement, c'est pas quelque chose qui ne peut se faire que à toute petite échelle. Non, c'est...
Alors, vous parlez de recyclage en boucle fermée. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, on arrive à casser cette colle, cette matrice qui lie les fibres entre elles aussi, donc cette thermodurcissable. C'est intéressant pour récupérer les fibres, parce que les fibres, c'est quand même assez cher, donc on peut les réutiliser, ça c'est bien. Et pour ça, on casse une liaison, mais les morceaux qu'on récupère après avoir cassé, donc ce plastique, sont les morceaux qu'on a utilisés pour fabriquer la résine. On récupère pas des morceaux donc non utilisables, ce qui aurait déjà été intéressant pour qu'on puisse récupérer les fibres, mais on récupère les morceaux qu'on a utilisés au départ. Donc c'est-à-dire qu'on revient à l'origine de la fabrication de cette résine, de cette plastique thermodurcissable. Et donc c'est ça, c'est la boucle, puisqu'on boucle, on revient au départ, une boucle fermée quoi, de circularité. Voilà.
Et vous arrivez à récupérer la totalité des matériaux de départ après le recyclage ?
Oui, oui, je dirais quasi totalement en fait, voilà, parce qu'il y a toujours quelques pertes qui vont, alors surtout à petite échelle, et des fois c'est un peu collé au fond du ballon, je rigole, non mais voilà, oui, on récupère la quasi-totalité, puisqu'en fait, quand le méthanol commence à casser les liaisons, en fait, après de proche en proche, on casse tout et on récupère effectivement toutes les briques qui ont été utilisées pour fabriquer la résine au départ.
Et c'est coûteux ça comme procédé ou c'est bon marché ?
Ben vraiment, le méthanol est un solvant qui n'est pas cher. Et donc, tremper ça dans du solvant, chauffer un petit peu, récupérer le solvant qui n'a pas réagi, parce qu'on peut le récupérer simplement par distillation. Donc non, cette étape-là, elle n'est pas vraiment coûteuse en vrai. Au regard de ce qu'on peut, de l'intérêt de la récupération de fibres, parce que des fibres de carbone ou des fibres de verre, ça peut être ça, c'est coûteux. Non, c'est intéressant, ça reste intéressant. Voilà.
Mais du coup, vous pouvez refabriquer avec tout ce que vous avez récupéré de nouveaux matériaux. Est-ce qu'ils gardent les mêmes propriétés que les matériaux de départ ?
Alors, dans les essais qu'on a fait, oui. Je dirais, dans la mesure où on récupère les briques vraiment qui ont servi à la fabrication, on refait, on a les mêmes molécules, donc on refait la même matrice, et donc le même plastique, donc on a les mêmes propriétés.
Alors, est-ce que ce fonctionnement, justement, en boucle fermée, il va permettre d'ouvrir des nouvelles applications ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se lâcher un peu plus ?
Bon, déjà, on se lâche.
Ouais. Hein,
mais... Non, mais oui, parce que ça répond à un enjeu de récupération ou de réutilisation de déchets, de composites, parce que jusqu'à présent, si on les cassait en morceaux, on les mettait un petit peu partout, enfin, dans des... Dans des en charge dans d'autres plastiques, donc ce n'est pas intéressant. Donc oui, ça répond à un enjeu, une application, mais on peut aussi utiliser cette approche-là avec cette même liaison qui est fragile et du méthanol pour d'autres résines autres que les époxys, et donc éventuellement envisager de recycler d'autres composites.
Merci beaucoup Sylvain Cailleul, c'était passionnant et très clair.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Après une longue préparation pour rentrer dans le laboratoire P3 du SEMIPAI la semaine dernière, cette semaine, on part à la découverte des virologues. Aline, je te laisse en dire plus.
Oui, alors on va rencontrer Aymeric Néret, qui est ingénieur d'études à l'Université de Montpellier et spécialiste de la microscopie électronique. Alors il va nous faire voyager avec des virus aux noms exotiques mais aux effets pas toujours sympathiques. Et aux commandes de son poste de sécurité biologique, le virologue cherche à identifier des molécules qui seront peut-être un jour des traitements efficaces.
Donc voici Aymeric Néret, qui est ingénieur d'études à l'Université de Montpellier et qui travaille avec nous comme c'est un spécialiste de la microscopie électronique et aussi de la culture de virus. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train, d'essayer de voir s'il arrive à faire pousser des virus dont il va vous parler. Et là, il est en train de mettre des produits dont je pense qu'il va vous parler aussi pour s'assurer que sa manip fonctionne bien. Donc vous voyez, il travaille sous le fameux poste de sécurité microbiologique. Donc il a les mains sous une vitre, donc sous une espèce de grosse boîte dont on entend bien la ventilation. Et en fait, à l'intérieur, il y a un flux d'air qui va faire une sorte de mur d'air devant ses bras. Vous voyez, il y a les grilles là. Et donc l'air va bloquer, pareil, ce qui se passe à l'intérieur de la hotte.
Donc là, il n'y a rien qui peut sortir de la hotte.
Exactement. Donc ça, c'est la double protection. Qui permet cette fois-ci de protéger l'utilisateur. Alors Aymeric, je pense qu'il va vous dire sur lesquels il travaille. Vous allez voir, c'est assez... c'est des noms exotiques.
Alors oui, là j'ai... et en plus je voyage. Donc là j'ai un virus qui s'appelle O-Nyong-Nyong, qui veut dire qui casse les articulations dans un dialecte soudanais. Et j'ai aussi le virus, alors Ross River Virus, qui est le virus de la rivière de Ross en Australie. Comme son nom l'indique, celui qui casse les articulations, c'est un virus qui va attaquer effectivement toutes les articulations, qui va donner des rhumatismes, ce genre de choses. Beaucoup, en fait, donnent après des choses assez communes, des fièvres, de la toux, beaucoup de tueurs, avec, dans les cas les plus graves, des atteintes neurologiques, mais c'est vraiment les atteintes les plus graves, donc pas les plus communes. Certains auront la chance de ne pas développer de maladie. Donc ceux-là sont très chanceux, mais bon, c'est pas la plupart des cas.
Et alors, est-ce qu'il y a un traitement contre ces maladies ?
Alors, c'est en cours. Il y a un certain nombre de molécules qui sont testées, qui sont screenées. C'est notamment le but de cette plateforme, c'est de fournir en fait un espace pour que les gens soit viennent eux-mêmes tester leurs molécules ou nous fournissent eux-mêmes leurs molécules et on les teste pour eux.
Vous allez les mettre où, vos plaques que vous êtes en train de remplir ?
Alors, les plaques étaient là où j'avais mes virus. Je leur ai mis une molécule avec une concentration croissante. Et en fait, ce sont des virus qui ont été un peu modifiés pour produire une protéine rapportrice. Et elle va me faire un signal. Donc là, c'est la luciférase. Donc, si la molécule fonctionne, en fait, je vais avoir le signal qui va diminuer petit à petit au fur et à mesure que ma concentration de molécules va augmenter. Donc là, justement, j'ai cassé les cellules et je vais mettre le produit qui va faire réagir ma molécule.
Vous allez l'observer visuellement ?
Alors là, je ne peux pas parce que ça va être dans un spectre qui n'est pas visible par nous, mais c'est une machine qui va lire.
Une machine qui est très utilisée, qui est un spectromètre. Donc c'est une machine qui va utiliser de la lumière pour vous donner des signaux et qui peut lire des plaques de 96 puits. Donc ça veut dire, on met la petite plaque à l'intérieur de la machine, et il va y avoir un petit faisceau de lumière qui va aller puits par puits, aller nous mesurer la lumière que les cellules qui ont été infectées vont émettre, suivant les conditions. Donc, vous voyez, là, Aymeric, il a un code couleur qui vous dit que plus c'est rouge, on va dire, plus c'est fluorescent, et plus c'est vert, moins il y a de fluorescence. Et que là, il voit que tout fonctionne très bien. Ces cellules, elles sont bien fluo, elles ont produit du virus.
Je vois que du coup, j'ai un effet à des concentrations relativement fortes. Cette molécule, pourra fonctionner contre ce virus-là.
Vous pouvez nous redire le nom de la molécule ?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas le droit de la dire. Pour l'instant que ce n'est pas encore publié, je ne peux pas dire ce nom-là.
Et le virus, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez nous redire
aussi. En haut, c'est le O-Nyong-Nyong. Et en bas, c'est le Ross River virus.
Et c'est la même molécule que vous avez vue.
C'est la même molécule que j'ai testée sur les deux. Donc oui, on passe à 70 000 de fluorescence jusqu'à 1000 de fluorescence. Donc oui, là, il y a quand même un gradient assez important. Donc oui, il y a un effet qui est quand même assez présent. Pour l'instant, pour le premier cadre de recherche d'efficacité de molécules, là, oui, ça va être une molécule intéressante.
En revanche, pour le virus qui est en haut, ça reste de la même couleur. Ça veut dire que la molécule que vous étudiez n'est pas efficace ?
En fait, non. Enfin, la couleur, c'est pour avoir une idée. Mais en fait, on est à 10 millions d'unités de fluorescence et on tombe à 700 000. Donc, si, il y aura quand même un effet, mais il n'est pas total. Donc, il y a un début d'intérêt, mais il va falloir retravailler sur cette molécule. Ou peut-être que l'organisme peut accepter de fortes doses. Et donc dans ce cas-là, on peut doser très fort. Ça va dépendre de chaque molécule, en fait.
La semaine prochaine, nous poursuivons notre exploration du semi-paille avec la découverte d'un microscope, très particulier. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Bonjour Jean-Louis Respo.
Bonjour.
Donc vous êtes maître de conférence en droit privé à la faculté de droit et sciences politiques, directeur du master de droit privé économique et chercheur au LICEM. Vous organisez le colloque intitulé « Journée du droit du marché » qui se tiendra le 7 juin de 8h30 à 17h30 à la fac de droit, c'est bien ça ?
C'est exactement cela. Étant précisé que la journée du droit du marché est un événement qui a été organisé pour la première fois l'an dernier, que nous réitérons et que nous voulons être un événement récurrent. Les fédérateurs de notre laboratoire.
Alors, le thème que vous avez choisi donc, pour cette journée cette année est la souveraineté économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce thème et sur ses enjeux sur le plan juridique ?
Alors, avant de répondre à votre question, simplement la resituer et vous dire que le thème que nous avions choisi l'an dernier était le thème de l'inflation. Alors, pourquoi vous parlez de l'inflation avant de vous parler de la souveraineté ? Tout simplement pour permettre de signifier que nous recherchons des thèmes qui soient des thèmes à résonance juridique, mais qui interpellent au-delà du seul droit, avec une dimension sociétale, économique, et puis, pourquoi pas le dire, politique. Et donc l'inflation, c'était comment le droit économique, à savoir le droit de la distribution, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, ont pu réagir à la forte inflation que le pays et au-delà a pu subir. Et cette année, le thème retenu est la souveraineté économique pour voir également comment notre droit du marché ou droit économique, dans ses différents volets, mais là, élargi au-delà de la consommation, de la concurrence et de la distribution, élargi par exemple à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté numérique, sont à même ou pas de répondre à ces enjeux qui sont des enjeux nationaux, la souveraineté économique. Souveraineté économique, ce n'est pas la fermeture des marchés, hein, ce n'est pas l'ultra-protectionnisme, c'est simplement s'assurer dans le cadre d'un commerce international que les enjeux d'un État, ben d'une nation, pas seulement de l'État au sens de personne publique, de personne morale de droit public, mais sont correctement pourvus, sont correctement défendus. Et donc, en quoi le droit peut permettre d'aller en ce sens ou, encore une fois, en quoi il peut être amendé, amélioré, perfectionné pour qu'il puisse le permettre.
Alors, les étudiants ont bien sûr une place importante donc dans cette journée. Le matin, ce seront eux qui auront la parole pour faire alors une sorte d'état des lieux ou en tout cas un tableau de l'actualité sur différents thèmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, votre terme, votre expression d'état des lieux est parfaitement juste. C'est exactement ce dont il s'agit, puisque comme ils l'ont fait l'an dernier, enfin les précédentes promotions l'ont fait l'an dernier, les promotions de cette année s'y livreront le 7 juin, ils vont nous présenter l'actualité dans les matières phares du droit économique, le droit de la consommation, le droit de la concurrence et le droit de la distribution. Donc, il s'agit pour eux, devant un parterre d'étudiants, de chercheurs, mais également de praticiens, du droit, d'avocats ou autres, de nous livrer leur impression sur cette actualité dans les trois matières. Alors, une actualité législative, si c'est le cas, et jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches sur à peu près un laps de temps d'une année, et ils vont nous présenter les décisions qui leur semblent majeures, ainsi que les textes et parfois même des propositions, parce que il n'est pas suffisant d'étudier le droit tel qu'il est, mais si l'on peut se projeter et envisager tel qu'il sera, c'est bien aussi.
Alors le colloque se tiendra l'après-midi avec 7 intervenants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit synopsis de ces interventions ?
Alors bien volontiers. Alors là encore, nous avons cette récurrence que je veux, parce que j'aime bien qu'on ait des traditions, c'est bien la faculté de droit. Et nous avions l'an dernier lancé la première formule avec une introduction économique par le professeur Edmond Baranès, qui vient enseigner régulièrement à nos étudiants. Dans nos matières de droit économique, c'est appréciable. Et donc Edmond Baranès va se livrer à une présentation sous l'angle économique de ce thème souveraineté économique. Bon, ça peut sembler une répétition, mais souveraineté économique, nous allons l'aborder dans ce colloque, évidemment, dans les enjeux juridiques, comme votre précédente question m'a permis de l'illustrer. Lui va d'emblée nous poser le sujet en matière d'économie. Puis, le professeur Malot de Pincé s'entretiendra avec nous, avec l'assistance, de ce qui me semble être peut-être le point essentiel pour un État, une nation, un peuple en termes de souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. D'ailleurs, Malot de Pincé, qui dirige le master de droit consommation et concurrence, co-dirige également un master de droit de l'alimentaire, enfin qui a peut-être une autre appellation. Puis, nous aurons une autre spécialiste, Agnès Robin, qui viendra nous traiter de souveraineté numérique. Agnès Robin dirige le master de propriété intellectuelle et du numérique à la faculté de Montpellier, enfin un des masters sous ces matières. Ensuite, nous aurons une intervention de notre collègue Mathilde Caillot en matière de souveraineté économique et mondialisation de la concurrence. Et là, ce sera une analyse par les instruments précis du droit de la concurrence, voir comment cette souveraineté économique est aujourd'hui malmenée, et malmenée donc dans un environnement de mondialisation de la concurrence. Nous aurons en avant-dernière intervention une intervention de droit européen, ce qui sera une des interventions majeures de l'après-midi, puisque le droit européen, lui, qui doit régler les questions de libre circulation et qui interdit à des États d'aider leurs entreprises, semble être un peu le troublion, semble être l'empêcheur de tourner en rond sur cette question de souveraineté. Nous verrons ce qu'il en est avec Mélanie Sescu, qui est une jeune docteure de notre laboratoire, que nous entendons mettre en avant parce qu'elle le mérite et que ce sera une de nos futures collègues. Ensuite, nous aurons un sorte de bouquet final en droit public, ce qui n'est pas dans nos champs d'investigation habituels, mais ce qui devait absolument être traité ce jour sur la souveraineté économique. Et ce sera une avocate, ce que nous apprécions particulièrement, Maître Delphine Rijad, d'un beau cabinet montpelliérain, le cabinet SVA, qui viendra nous entretenir du droit des contrats publics et de la souveraineté économique. Là, la question sera, est-ce que le droit des marchés publics, est-ce que le droit des contrats publics permet à un État de défendre ses intérêts vitaux, oui, non, et est-ce que c'est améliorable ou est-ce que ça a besoin de l'être ? Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour.
Merci beaucoup d'ailleurs. Et ce colloque, alors, il est ouvert à qui ?
Alors ce colloque est absolument ouvert à tout le monde, il est ouvert évidemment à nos étudiants, mais bien au-delà, et je vous remercie de le faire rayonner, c'est fort sympathique et appréciable de votre part, et il est ouvert à nos collègues des différentes facultés, évidemment à des collègues d'avocats, puisque nous avons le concours de l'école d'avocats, l'EDAX, qui a référencé cette journée et qui a largement diffusé auprès des avocats des différents barreaux de Montpellier et autour.
Très bien. Alors, on rappelle, le vendredi 7 juin, de 8h30 à 17h30, à la Fac de droit, c'est bien ça ?
C'est exactement cela.
Un grand merci à vous, Jean-Louis Respeau.
Un grand merci à vous.
Et à très bientôt dans Allume la science.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses... manière d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.